Louise Labbé est une poétesse du XVIe siècle, née à Lyon. Elle publie en 1555 le recueil poétique Élégies et sonnets. Le sonnet étant une forme poétique qui émerge vraiment au XVIe siècle, notamment par les contributions de Joachim du Bellay et de Pierre de Ronsard, qui sont contemporains de Louise Labbé. Dans ce recueil, donc Élégies et sonnets, le poème le plus connu que nous allons étudier est le sonnet 8, qui s'intitule Je vis, je meurs, et dans lequel il est question du sentiment amoureux. Nous allons nous demander comment ce poème exprime les tourments du sentiment amoureux. Pour répondre à cette question, nous verrons que ce poème exprime les tourments du sentiment amoureux d'abord en montrant l'ambivalence de l'amour, puis dans un deuxième temps, nous verrons que ce poème exprime la dépossession du sujet qu'occasionne le sentiment amoureux, la perte du moi. Je vais procéder à la lecture du texte. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie, et en plaisir, maint grief, tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et, quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heur, il me remet en mon premier malheur. Nous allons donc voir dans ce texte que l'amour est présenté de manière extrêmement ambivalente, extrêmement ambiguë. Tout d'abord, l'amour semble énigmatique et en même temps évident. En effet, au début du poème, le sujet de ce texte n'apparaît pas de manière très claire et même de manière un petit peu énigmatique, puisqu'il n'y a pas de mention du terme amour avant le vers 9, c'est-à-dire à plus de la moitié du sonnet. Dans les quatrains, le champ lexical que l'on trouve est plutôt celui de la douleur physique, puisqu'il est question de brûler, noyer, de chaleur extrême, de froidure. Ce poème semble donc d'abord décrire une maladie ou une torture dont on comprend seulement au vers 9 qu'il s'agit en fait de l'amour, puisque ce terme amour est mis en évidence. En effet, il se trouve à la charnière entre les quatrains et les tercets. En plus, le mot est doté d'une majuscule, qui en fait une allégorie, hein, amour avec une majuscule, et l'absence de déterminant avant ce mot en fait vraiment un nom propre. D'autre part, l'absence de déterminant, crée un hiatus entre ainsi et amour, puisqu'on a deux voyelles qui se juxtaposent, ainsi amour, et qui forcent à la lecture à mettre en évidence le mot amour. Enfin, l'amour est ici, dans cette phrase, sujet d'un verbe d'action, puisque c'est « ainsi amour inconstamment me mène », et donc il est donc actif dans ce poème. On peut ensuite voir que l'amour apparaît dans ce poème comme une succession de sensations opposées, hein, qui contribuent à son caractère ambivalent. En effet, ce sonnet est très charnel, il donne beaucoup de place aux sensations, notamment dans les quatrains, et ces sensations sont opposées, comme on le voit avec les antithèses, entre la chaleur et le froid. Hein. Je me brûle et me noie, qui s'oppose, chaud extrême en endurant froid dur, qui s'oppose, et l'opposition aussi entre la mollesse et la dureté, au vers 3, la vie m'est et trop molle et trop dure, cette opposition étant mise en valeur par le parallélisme de construction, et trop molle et trop dure. Et puis l'opposition entre la sécheresse et l'humidité, l'humidité avec le verbe « je me noie »,« je larmoie », »,« je verdoie », tandis que au vers 8, hein, on a une antithèse « je sèche et je verdoie ». Ces sensations, on peut les lire comme des allusions érotiques, hein, la mollesse, la dureté, la sécheresse, l'humidité, qui peuvent se lire comme des manifestations physiques du désir amoureux. Et ces sensations vont jusqu'à une violence extrême, puisque dès le début du poème, il est question de mourir. Je vis, je meurs. Voilà. Ces sensations opposées se succèdent très rapidement dans le poème, comme l'exprime la parataxe du premier vers, hein, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. On passe d'un extrême à l'autre sans transition. On a en plus le gérondif en endurant au vers 2, qui montre bien la simultanéité des deux opposés. J'ai chaud extrême, en même temps, en endurant, froid dur. Les compléments circonstanciels de temps également contribuent à cette impression de succession rapide, puisque les deux tout à un coup et tout en un coup au vers 8 et au vers 5 montrent la rapidité de ces successions de sensations. Enfin, on peut voir que l'amour, qui est donc ici apparu par des sensations opposées, est également exprimé à travers des sentiments opposés, hein, puisqu'il est question de sentiments négatifs, ennui au vers 4, douleur au vers 10, malheur au vers 14, tourment, grief, et puis des sentiments positifs, la joie, le plaisir et le désiré heure au vers 13. Ces sentiments opposés, comme les sensations, sont simultanés. On le voit grâce au participe passé adjectivé entremêlé au vers 4. J'ai grands ennuis entremêlés de joie, ce qui montre bien leur coexistence en même temps. Et les compléments circonstanciels de temps, quand je crois, quand je pense, qui sont immédiatement contredits par une situation contraire en fait. Hein, puisque quand je crois ma joie être certaine, il me remet en mon premier malheur. Ou quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. On a donc une contradiction immédiate entre ce qui était prévu et ce qui arrive. Pour terminer, on peut observer le caractère extrême de ces sentiments. Hein. Le champ lexical de l'excès est présent, puisqu'il est question de grands ennuis au vers 4, de mains griefs au vers 6, et d'être au haut de mon désir et heure au vers 3, donc au sommet. Il est toujours question de l'excès, de l'extrémité du bonheur ou du malheur. Voilà pour l'ambivalence de ce sentiment amoureux qui crée évidemment des tourments. D'autre part, et c'est ma deuxième partie, on peut aussi voir que dans ce poème, l'amour semble créer la perte du sujet, la dépossession du moi. Tout d'abord, on peut voir que le sujet du poème est très passif. En effet, le pronom « je » est présent dans tout le sonnet, mais il est le plus souvent sujet du verbe « avoir »,« j'ai chaud »,« j'ai grands ennuis », ou bien il est sujet de réaction, « je ris »,« je larmoie », mais jamais sujet d'action. On peut également trouver cette première personne en tant que COD de verbe d'action, il me mène, il me remet, mais à chaque fois le sujet de ces verbes c'est l'amour. Hein. L'amour inconstamment me mène, il me remet en mon premier malheur. Ce n'est jamais le je qui est actif. Le sujet donc est totalement passif et non actif, il constate simplement son état et ses variations, j'endure, comme on voit au vers 6, hein, j'endure, c'est-à-dire je subis. On peut également observer son incapacité à analyser avec la parataxe du premier vers dont je parlais tout à l'heure, l'absence de connecteur logique. Et puis les verbes de pensée, je pense, je crois, qui sont démentis par la suite de la phrase, comme au vers 10 et 11, hein, quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Ici, la capacité à intellectualiser dysfonctionne. Elle ne peut plus penser. On a donc un sujet passif et un sujet qui, en plus, va être confus. En effet, on peut observer une perte de repère dès le premier vers avec la confusion entre la vie et la mort qui se mélange. On a également des images de mort, je me noie, je sèche, et en même temps des images de renaissance, je verdoie, qui peut évoquer le printemps, la renaissance. On a donc une impression cyclique qui est mise en place dans ce poème, de ballottement cyclique, hein, qui est accentué par le vers final, il me remet en mon premier malheur, qui rime avec le premier vers, pas du tout, pardon, qui rime avec je meurs, et puis qui mentionne le premier malheur dans le dernier vers. On a donc l'impression que le poème pourrait recommencer. On a également une perte de repère temporel, on le voit, on a parlé de la rapidité, de l'instantanéité tout à l'heure, avec les termes tout à coup, tout en un coup, et en même temps, ici aussi, la mention de quelque chose d'infini, avec le mot jamais, à jamais il dure. Voilà, cette confusion, elle est accentuée par le rythme et les rimes du poème, puisqu'on a une certaine irrégularité rythmique dans ce sonnet. En effet, il commence par un vers très structuré, « je vis, je meurs, je me brûle et me noie », donc 2, 2, 3, 3, « je vis, je meurs, je me brûle et me noie », et après 2, 4, 1 qui propose des oppositions 2 à 2 dans chaque vers, « j'ai chaud extrême en endurant froid dur »,« la vie mais est trop molle et trop dure »,« grands ennuis entremêlés de joie », donc un seul vers à chaque fois avec une opposition. Puis, cette structure va se dérégler petit à petit dans les tercets, puisque les tercets vont proposer des oppositions sur beaucoup plus de vers. Hein, dans le premier tercet, « Ainsi, amour inconstamment me mène. Quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. » Là, on trouve les deux opposés un peu plus distants que dans les deux quatrains. Cette confusion, elle est renforcée par le choix des rimes, puisqu'on a donc, par exemple, en dur, dur et dur au vers 3 et au vers 6, donc dur et dur qui sont le même mot, mais avec deux sens différents. Tout comme le choix de faire rimer heure et malheur au vers 13 et 14, hein, pour montrer leur porosité, la porosité entre le malheur et le bonheur. Donc même phonétiquement, ce poème est assez confus, puisque c'est souvent les mêmes sons qui reviennent. Au milieu de toute cette confusion, il y a comme une seule certitude qui est le vers 9, ainsi amour inconstamment me mène, puisque cette phrase est introduite par un connecteur logique d'explication, ainsi, et elle vient expliquer les oppositions des deux quatrains. Hein, c'est l'explication de ce qu'on a pu constater avant. Voilà. Pour finir, on peut dire que ce sujet est anonyme et universel, il est dépossédé de sa propre identité, puisqu'il n'y a aucune circonstance temporelle. Le poème est écrit au présent, donc ça peut être un présent d'habitude ou un présent d'énonciation. Peut-être que le lecteur est en prise directe avec les sentiments et les sensations de ce jeu, qu'il les ressent en même temps qu'il écrit, qu'il les vit au moment de l'écriture. De plus, on n'a aucune trace du féminin. Alors on sait que Louise Labbé est une femme, mais ici le « je » présent dans le poème n'est en rien féminin, en tout cas rien ne l'indique, puisque ce sont des verbes conjugués plutôt que des attributs du sujet, et donc il n'y a aucun moyen de savoir le genre de ce « je ». Et le sujet aimant, le « je », ne se décrit qu'à travers une métaphore peut-être du monde, au moment où il est question de sécher, de verdoyer, hein, tout d'un coup je sèche et je verdoie. C'est, voilà, c'est les seuls éléments qui définissent un peu le sujet. On voit bien qu'ici il n'a pas d'identité propre, ni même d'identité sexuée, c'est simplement un sujet aimant. On n'a également aucune trace finalement de l'être aimé, rien ne particularise ce sentiment, il n'est jamais question d'un tu ou d'un vous. Le poème est uniquement centré sur les sentiments, les sensations de la personne qui aime. Donc malgré l'utilisation très très présente de la première personne, et donc le registre lyrique que ça pourrait impliquer, ici cette complainte amoureuse a une portée vraiment universelle, anonyme, pour aussi exprimer le fait que le sujet est perdu, dépossédé de lui-même lorsqu'il aime. Voilà, pour conclure, donc, on peut dire que Louise Labbé exprime les tourments du sentiment amoureux en montrant les différentes sensations, les différents sentiments très opposés qui sont suscités par le sentiment amoureux, et en montrant également que l'amour fait perdre l'identité de celui qui aime, qui se noie dans le sentiment amoureux. On peut retrouver cette même idée de l'ambivalence de l'amour, de son caractère positif et négatif dans le poème de Georges de Scudéry qui s'intitule « Pour la même inconstante » où il est également question de ce caractère antithétique du sentiment amoureux qui provoque, enfin qui est très instable et qui emmène aussi bien vers le bonheur que vers le malheur.